Today, I'm defending America's national security by placing tariffs on foreign imports of steel and aluminum. We will have a 25% tariff on foreign steel and a 10% tariff on foreign aluminum.
Alors, j'ai regardé l'heure, Raphaël, quand il a signé ce document imposant des tarifs sur l'acier et l'aluminium aux autres pays, à l'exception du Canada et du Mexique. Il était précisément 16 heures. Est-ce que c'est le début? Et plusieurs se posent la question, avec raison d'ailleurs, d'une guerre économique à l'échelle mondiale.
Si c'est
une guerre commerciale, pardon.
Si c'est le cas, ça n'impliquera pas le Canada ni le Mexique, du moins à court terme. Là, il faut préciser, parce que c'est sûr que les gens vont se poser la question, si le Canada est exempté, c'est pour combien de temps? La réponse, c'est qu'on ne le sait pas. Ça a été, en fait, c'est resté indéterminé. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on laisse planer la menace de tarifs par-dessus la tête des négociateurs canadiens et mexicains qui, évidemment, s'affairent depuis des mois à renégocier l'ALENA, en leur laissant comprendre que si on ne s'entend pas sur une entente qui fait l'affaire des Américains, les tarifs qui vont s'appliquer à l'ensemble des pays du monde, sauf le Canada et le Mexique, s'appliqueront également au Canada et au Mexique.
Bon, ça, c'est important, parce que c'est comme une victoire temporaire pour le Canada et le Mexique. La participation du Canada à l'économie américaine est extrêmement importante, notamment pour l'automobile, dans ces deux métaux que sont l'acier et l'aluminium. Alors, c'est pas encore gagné. S'il n'obtient pas ce qu'il veut dans un nouvel accord de libre-échange, il pourrait y avoir des tarifs imposés même au Canada.
Il pourrait y avoir des tarifs imposés même au Canada. Donc, évidemment, il va falloir continuer à suivre le dossier. Ce qui est vraiment fascinant dans cette dynamique-là, et ça, on s'en était parlé un petit peu plus tôt cette semaine, c'est le fait que tu as une espèce de révolte au sein de son propre parti suite à cette annonce-là. Plusieurs républicains, encore une fois, incluant le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, qui ont condamné cette approche-là tarifaire en disant essentiellement ce que les négociateurs canadiens, ce que les politiciens canadiens disent depuis des jours, c'est-à-dire que ça va nuire à l'économie américaine. Mais sais-tu qui défend le président dans tout ça? Plusieurs démocrates et les plus gros syndicats américains.
Ben oui, mais c'est normal.
Mais tu aurais dû voir, et je sais que tu l'as vu, les gens auraient dû voir à quoi ça ressemblait l'événement d'aujourd'hui. Ouais. Le président était flanqué d'ouvriers, de col bleu,
avec
de syndiqués.
Avec leur casque de sécurité.
Oui, oui, absolument. Et donc, il ne faut pas penser que le président s'adresse à personne avec ça. Il s'adresse à une partie importante de l'électorat américain.
Et tu vas en convenir, il y a des États américains qui aiment ce discours. Le Belt, Steel
Rust Belt.
Belt
oui.
Le Rust Belt ou Steel Belt, comme on l'appelle dans le cas de la région de Pittsburgh. C'est la Pennsylvanie, c'est l'Ohio. Il y en a des aciéries et il y en a de l'aluminium.
Et devine quoi, Paul? Tu parles de l'Ohio et de la Pennsylvanie. Il y a une élection spéciale, l'équivalent d'une élection partielle. Un siège qui est à pourvoir à la Chambre des représentants. L'élection a lieu la semaine prochaine.
Oui.
C'est dans l'ouest de la Pennsylvanie. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas leur géographie américaine, là, l'ouest de la Pennsylvanie, c'est justement la région qui donne sur l'Ohio. C'est un État collé
exactement
sur l'autre. Et devine quoi? Donald Trump s'en va là pour faire campagne en fin de semaine. Et les deux candidats dans la course, à la fois le démocrate et le républicain, appuient ces tarifs-là. Il n'y a pas de hasard.
Il va avoir un très bel accueil en fin de semaine.
Oui.
Ce n'est pas qu'à Washington que ça bouge. Le gouverneur de la Floride sur le point de resserrer le contrôle des armes à feu suite à la fusillade du lycée de Parkland.
Oui, donc, ça aussi, on s'en était parlé il y a deux semaines, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pression sur les législateurs de la Floride pour agir. Évidemment, au Congrès, ça ne bouge pas, ça ne bougera pas, tout au moins à court et moyen terme. Mais là, au niveau du gouvernement de la Floride, ça vient de débloquer. L'Assemblée législative qui a donné son appui formel et final à plusieurs mesures, incluant une augmentation du seuil minimal au niveau de l'âge pour acheter certaines armes, incluant également une période d'attente. Si vous voulez acheter une arme d'épaule, maintenant, ça va vous prendre 3 jours de délai. Et de l'autre côté, là, on vient peut-être un petit peu desserrer le contrôle des armes à feu. Ça crée un programme qui permettrait, ça ne forcerait pas, mais ça permettrait les employés et les enseignants au niveau scolaire d'obtenir une formation en vue d'éventuellement s'armer s'ils le souhaitaient. Donc, certaines mesures pro-contrôle des armes à feu, d'autres mesures, je dirais, pro-second amendement, pro-part des armes à feu. Au final, ça s'en va au bureau du gouverneur, qui est un républicain. Il n'a pas encore indiqué s'il allait signer la mesure, mais ça semble se dessiner comme ça.
L'administration Trump qui intente une poursuite contre la Californie dans le controversé dossier de l'immigration illégale.
Ça, c'est fascinant. Là, on se parle du pouvoir d'un État, la Floride, pour légiférer lorsque le fédéral n'agit pas. Là, tu as une dynamique assez renversante en Californie. Pourquoi? Parce que Au niveau de l'immigration, la loi fédérale américaine est extrêmement claire depuis des décennies. S'il y a un individu qui se trouve de façon illégale en sol américain, c'est du ressort du gouvernement fédéral. En fait, c'est le droit et le devoir du gouvernement fédéral américain d'expulser cette personne-là, de le déporter. C'est ce que la loi dit, c'est la loi fédérale. Et la loi fédérale, un petit peu comme au Canada, soit dit en passant, prime sur les lois des gouvernements inférieurs, des paliers inférieurs. Ici, c'est les provinces, là-bas, c'est les États. Donc, vous avez une loi fédérale, ça passe avant les lois des États. Et là, le problème, c'est que la Californie, essentiellement, a fait un pied de nez au gouvernement fédéral, a dit, nous, on ne fait pas appliquer la loi fédérale. Il y a des gens qui se trouvent ici, dans nos communautés, dans certains cas depuis des décennies, qui contribuent à notre vie, à notre économie, etc. On ne va pas les déporter.
La libre circulation, ça date de très longtemps.
Exact.
Entre le sud de la Californie et le nord, la région de Tijuana.
Au Mexique, ouais. Exactement. Et donc, là, on refuse de collaborer avec le fédéral. La réaction de l'administration Trump, donc du gouvernement fédéral américain, c'est d'intenter une poursuite contre la Californie en disant « Vous devez vous plier à la loi fédérale. » Et sais-tu le punch de l'histoire? C'est que ça s'en va en cours et l'argument que l'administration Trump risque de sortir et qui pourrait être fructueux, ça pourrait fonctionner, c'est en fait de citer ce que l'administration Obama, on sait que ce n'est pas deux administrations qui s'affectionnent particulièrement, mais on pourrait citer le cas de l'administration Obama qui, 8 ans auparavant, avait poursuivi un autre État, l'État de l'Arizona, également sur la question de l'immigration, parce que, à l'inverse, l'administration Obama trouvait que l'Arizona s'était dotée d'une politique en matière d'immigration illégale qui était trop dure et qui contrevenait à la loi fédérale. Et l'administration Obama avait gagné. Les tribunaux américains avaient dit un État ne peut pas passer par-dessus la loi fédérale américaine. Donc ça, c'est extrêmement lourd de conséquences. On a parlé beaucoup d'États sanctuaires, de villes sanctuaires. Si l'administration Trump gagne en cours, ça fait sauter carrément la possibilité pour un État ou une ville américaine de se dire sanctuaire et essentiellement de refuser avec les autorités policières fédérales pour déporter les immigrants clandestins.
Alors, tu as peut-être remarqué, Raphaël, qu'habituellement, je te regarde dans les yeux quand tu parles. On est en studio face à face et de temps en temps, je détournais les yeux vers la télévision. Il va y avoir une annonce très importante à 19h à peu près ce soir. Donald Trump reprend la parole. Il y aurait une annonce extraordinaire concernant la Corée du Nord. Et c'est une annonce positive. C'est pas l'annonce d'une opération militaire ou d'une attaque sur la Corée du Nord. Un peu plus tôt, notre camarade Normand Lester nous disait que des Sud-Coréens proches du gouvernement de Séoul ont remis en main propre une lettre scellée du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à l'intention du président américain. Alors donc, c'est une lettre scellée. Les Coréens ont servi de courroie de transmission. Et Donald Trump, habituellement, quand il est heureux, il ne retient pas sa joie. Alors après avoir annoncé et signé ce document sur les tarifs concernant l'acier et l'aluminium, Raphaël, je vais te laisser commenter un peu quand même avant de te libérer. Ce serait vers 19h et on dit que le président est très enthousiaste de l'annoncer à la population.
Écoute, Paul, mon commentaire sera extrêmement bref. Le voici. On sait tous les deux de quoi on se parle demain soir à la même heure.
Alors, on me traduit en même temps. Catherine dit que c'est Trump lui-même qui est revenu vers les journalistes. Ça, c'est rare. Ça, c'est. Faut que ça soit une grosse annonce.
Probablement, en effet.
Alors,
il faudra suivre ça.
Il a dit « Tenez-vous prêts, vous allez être excited. »
Ça n'arrête jamais, hein, Paul.
Ça n'arrête jamais. Mais ce serait un développement majeur. Majeur. Après des mois et des mois de tension, des menaces de guerre nucléaire des deux côtés, des tests de missiles, des tests nucléaires du côté de la Corée du Nord, ce serait une annonce spectaculaire.
En fait, si je peux me permettre juste une chose, d'un, je ne veux pas tomber dans la spéculation, et de deux, je ne veux pas non plus rendre ça trop gros au niveau des attentes, mais disons très rapidement que cette semaine, parmi les rumeurs qui circulaient, il y en avait à l'effet de quoi le régime nord-coréen, je vais te le dire comme ça, là, était prêt à la possibilité de peut-être envisager de se désarmer au niveau nucléaire. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'on va annoncer ce soir, là,
ouais.
Mais je te dirais que, considérant ce qu'on a entendu en coulisses cette semaine, ce n'est pas entièrement surprenant. Mais encore une fois, il faudra voir ce qui est annoncé ce soir.
Dernière spéculation, est-ce que ça pourrait être une participation des deux chefs d'État, c'est-à-dire Kim Jong-un et le président américain Donald Trump à cette super conférence en avril qui réunirait les deux Corées et là, à ce moment-là, les États-Unis et la Corée.
C'est possible.
Du Nord.
C'est possible. Il faudrait vraiment voir. Et je me permets une dernière petite chose. Avec la Corée du Nord, la parole n'est pas nécessairement toujours digne de confiance.
Non. Donc, peu importe. Mais avec Donald Trump non plus, c'est peut-être pour éclipser Stormy Daniels.
Pour éclipser l'ouragan.
Vous regardez le film Wag the Dog. Mm-hmm. Merci beaucoup, Raphaël. Tenez-vous prêt à être sollicité toute la soirée, la nuit prochaine, pour cette annonce.